Unite.
Cruzând neamțul de Europa.
Răscrucea Europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue à Berlin. Nous avons plaisir à nous retrouver avec les membres du Club RFI Berlin dans un salon de l'hôtel Novotel Mitte, c'est-à-dire au cœur de la capitale allemande. Un an après l'arrivée d'environ 1 million de réfugiés, il semble bien qu'Angela Merkel ait surestimé sa capacité à gérer cet afflux massif qu'elle a pourtant suscité avec son fameux « Wir schaffen das », nous y arriverons. La chancelière admet volontiers aujourd'hui qu'elle a été quelque peu optimiste depuis la figure protectrice de Mutti, comme l'avait affectueusement affublé les Allemands, a pâli. Le résultat des élections régionales a sonné comme un avertissement. Partout, la CDU, le parti de la chancelière, est en chute libre face au parti d'extrême droite AfD, Alternative pour l'Allemagne. Angela Merkel est donc affaiblie, certes, mais faute d'opposition crédible, elle reste incontournable dans le paysage politique allemand à un an des élections. Je vous présente les invités qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre ici à Berlin. Henrik Enderlein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du bureau de Berlin de l'Institut Jacques Delors, mais pas seulement, vous êtes aussi professeur, mais où ça?
À la Hertie School of Governance, qui est un petit Sciences Po berlinois.
Pourquoi petit?
Non, parce qu'on est en train de devenir plus grand. On a été créé il y a une petite dizaine d'années, donc on est en train d'avoir de plus en plus d'étudiants. Mais on a un programme avec Sciences Po.
C'est la modestie allemande qui s'exprime.
Toujours.
Sonia Giese, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole de Die Linke, et Die Linke, c'est le parti qui est à la gauche de la gauche, c'est-à-dire à la gauche du SPD, le Parti social-démocrate allemand. Sébastien Haas, bonjour, guten Tag.
Bonjour.
Vous êtes directeur de cabinet parlementaire au Bundestag pour la CDU, donc le parti de la chancelière Angela Merkel. Simon Dallmayr, bonjour. Vous êtes étudiant, mais pas seulement.
Oui, je suis aussi journaliste sport chez Bild.
Et puis, bien sûr, Pascal Thibault, le correspondant de RFI en Allemagne. Je vous recommande son blog, L'Allemagne hors les murs, et son dernier papier, Angela Merkel prend l'eau, mais ça n'a rien à voir avec le sujet que nous allons aborder dans un instant.
Der Satz, wir schaffen das, ist Ausdruck.
La phrase « Nous y arriverons » traduit une prise de position politique et un but à atteindre. Cette phrase du langage courant a donné lieu à de nombreuses interprétations, à tel point que je veux à peine la répéter tant elle s'est transformée en une formule creuse et qu'elle suscite des discussions interminables et peu fructueuses. Certains se sentent même provoqués par cette phrase, ce qui n'a jamais été son intention. Elle traduit d'abord un volontarisme politique, car je suis profondément persuadé de l'hospitalité de notre pays et de sa capacité à gérer un tel défi. Mais je sais aussi que de grands efforts restent à accomplir, efforts qui ne peuvent se résumer à cette courte phrase.
Nicht sofort abbildet.
C'était un extrait de la conférence d'Angela Merkel il y a environ un mois, soit à peu près un an après l'arrivée d'un million de réfugiés. Est-ce qu'il faut l'interpréter comme un mea culpa de la chancelière Sébastien Haas?
Angela Merkel a expliqué sa position suite à, en effet, deux élections régionales qui avaient vu une poussée de l'AfD à Berlin et au nord-est de l'Allemagne. Saisit l'occasion pour s'expliquer de manière un peu plus longue sur ce qu'elle avait voulu dire par cette fameuse phrase, et recadrer les choses un peu et expliquer la pensée qui était derrière. Elle a également expliqué comment on était venu à cette situation et ce qu'elle aurait aimé changer dans le passé, bien des années au-delà. On s'y est attardé pendant trop longtemps et que maintenant on était dans une situation où il fallait régler tout simplement la situation devant laquelle nous nous trouvons.
Henrik Enderlein, elle était trop optimiste, Angela Merkel?
Non, elle était pragmatique comme toujours. C'est-à-dire, quand il y avait 1 million de réfugiés qui arrivaient en Europe, et c'était beaucoup plus pour l'Europe dans son ensemble, l'Allemagne avait quasiment aucune option que de les accueillir. On était obligé de fermer la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Et ceux qui connaissent cette frontière savent très bien, on ne peut pas fermer cette frontière. Elle n'existe plus. C'est impossible. Et mettre des militaires à cette frontière pour repousser les réfugiés, c'était un acte politique inimaginable. On aurait pu changer la constitution allemande pour dire on n'est plus obligé de les accueillir. C'est un acte politique impossible également. Après, elle a dit ces réfugiés arrivent en Allemagne, donc il faut y arriver. Et la phrase pour moi, via Schaffen das, nous y arriverons, c'est la phrase qui exprime le souhait, il faut y arriver. L'Allemagne aujourd'hui y est arrivée en très grande partie. Merkel en grande partie en paie un prix, mais d'autres aussi. Mais c'est un effort dans son ensemble qui a dû être fait. Ce que Merkel a fait elle-même, et il faut pas oublier, c'est que depuis, elle a essayé de fermer cette fameuse route des Balkans d'où arrivaient les réfugiés pour stopper l'afflux de réfugiés en Allemagne. Et cette année, je crois que nous avons eu 200-300 000 personnes qui sont arrivées.
C'est-à-dire beaucoup moins. Simon Hennemeyer, vous qui êtes jeune, le plus jeune autour de cette table, elle a bien fait d'ouvrir les bras à ces réfugiés qui étaient évidemment perdus entre la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan et l'Europe.
Pour moi, c'est bien ce qu'elle a fait parce que, à mon avis, elle a seulement défendu la démocratie allemande et toutes ses valeurs. Je pense que je parle pour beaucoup de jeunes Allemands.
Vous êtes ici le représentant de la jeunesse allemande, à vous tout seul.
Oui, je pense que beaucoup de jeunes Allemands pensent comme moi que c'était bien ce qu'elle a fait, qu'il ne faut pas limiter le nombre des réfugiés.
Svenja Giese, vous qui êtes ici un peu la représentante de l'opposition Angela Merkel, en tant que porte-parole de Die Linke, elle a bien fait, Angela Merkel?
Elle a bien fait quand elle a eu son petit, on va dire, son petit moment humain, de évidemment laisser rentrer les réfugiés, parce que c'était un acte soi-disant d'humanité et de solidarité, enfin tout ce qui est censé d'être des valeurs européennes. Et du coup, ce qu'elle a fait il y a un mois, pour moi, c'était, comme vous l'avez dit, un petit mea culpa. Enfin, elle a un peu quand même repris ce qu'elle a dit, cette fameuse Wir schaffen das, on va y arriver. La situation en Allemagne lui a bien montré, et surtout la pression de la droite politique lui a apparemment obligé de s'excuser un peu pour son petit moment d'humanité, on va dire.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Pascal Thibault, vous qui suivez l'actualité allemande au jour le jour et depuis quelques années déjà, est-ce que Angela Merkel a, selon vous, surestimé le fameux Willkommenkultur, la culture de l'accueil des Allemands?
Oui, non, parce que je pense que cette culture de bienvenue, elle a connu un essor absolument historique. C'est-à-dire, si on considère le nombre de personnes issues de la société civile, de personnes privées, qui ont décidé de s'engager, de venir en aide aux réfugiés, de les accueillir, on se rappelle les images à la gare de Munich en septembre 2015, mais aussi toutes ces personnes plus jeunes, plus âgés, qui donnent un coup de main, donnent des cours d'allemand, aident dans les démarches administratives, etc. Donc cette culture, elle existe. Le problème, c'est qu'elle n'est pas partagée par tous les Allemands et que les derniers mois ont montré que le distinguo, sans doute, qu'il y avait entre le discours et puis la réalité a aussi poussé, et là, on est plus dans le registre souvent du subjectif, voire du fantasme, beaucoup d'Allemands a estimé que leur identité était remise en cause, qu'il y avait un afflux qui allait submerger l'Allemagne, même si un certain nombre de tournants qui ont été pris avant ces déclarations du mois de septembre, et à commencer par le tournant factuel important, à savoir la fermeture de la route des Balkans et l'accord avec la Turquie, ont fait qu'il y a eu une baisse absolument importante du nombre de nouveaux migrants et donc des chiffres qui ne conduisent plus à la situation d'urgence qui régnait l'année dernière. Mais effectivement, avec les conséquences qu'on a évoquées, à savoir un terreau supplémentaire, il existait déjà, pour la droite populiste.
L'intégration des réfugiés est en tout cas le principal problème que les autorités allemandes doivent résoudre. Pascal, vous êtes rendu dans le service des eaux de la ville de Berlin et vous avez rencontré de jeunes réfugiés immigrés en phase d'apprentissage et notamment un jeune Pakistanais.
Pour nous, ça n'est pas si dur. Nous avons ces quelques mois de stage derrière nous et donc de la pratique. Je ne m'en fais pas. Le plus dur, c'est l'allemand. Il faut savoir écrire et lire et ça, ce n'est pas facile pour nous.
La maîtrise de l'allemand est la difficulté principale pour l'intégration des réfugiés sur le marché du travail. Dans la gastronomie, le nettoyage ou le bâtiment, elle est moins essentielle. Pour un apprentissage, les exigences sont plus importantes. Sune Espert, responsable de la formation à la Société des Eaux de Berlin.
Nous devons beaucoup faire pour améliorer leur niveau d'allemand. Il ne s'agit pas seulement du langage de tous les jours, mais de termes techniques. Et nous souhaitons que leur formation soit couronnée de succès.
Dans ce cas, un recrutement en bonne et due forme dans l'entreprise où s'effectue l'apprentissage est plus ou moins assuré. C'est bien sûr ce dont rêvent pour leur avenir ceux qui viennent de commencer leur formation.
Les réfugiés arrivent de plus en plus sur le marché du travail. 150 000 d'entre eux étaient inscrits au chômage en août. Les entreprises allemandes ont recruté plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais entre la maîtrise de la langue, la reconnaissance des diplômes difficiles et des formations nécessaires, leur intégration demande du temps et exige des compromis. Les emplois peu qualifiés sont les plus fréquents aujourd'hui. Barbara Yohn, ancienne déléguée aux étrangers de la ville de Berlin, qui s'engage dans l'initiative Work for Refugees.
Il s'agit avant tout d'emplois dans les services, dans le nettoyage ou la gastronomie, où beaucoup trouvent des emplois avec des horaires en soirée que les Allemands refusent. Les réfugiés, eux, les acceptent car ils ont besoin d'argent.
Barbara Yohn salue l'engagement civique des entreprises qui facilitent l'intégration des réfugiés. Le porte-parole de la Société des eaux de Berlin, Stefan Natz.
Nous n'allons pas sauver le monde avec ces six jeunes, mais nous sommes la première grande entreprise à nous y être attelés. Nous avons montré que l'intégration est possible et ça ne nous dérange pas si d'autres nous imitent.
Cela durera longtemps et coûtera cher, mais nous y arriverons, estime de son côté le patron de l'Agence pour l'emploi en Allemagne, paraphrasant la célèbre phrase d'Angela Merkel.
Et cette fameuse phrase, Wir schaffen das, on y revient sans cesse. Alors c'est vrai que l'allemand, c'est pas facile à apprendre, même pour les Européens. Il suffit quand même de se balader à Berlin pour se rendre compte à quel point les immigrés sont présents dans la ville et à quel point on parle l'allemand avec une multitude d'accents, Enrique Nagelein.
Oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire l'Allemagne est une société ouverte, elle devient de plus en plus une société ouverte, mais surtout dans les grandes villes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans les grandes villes, il y a ce multiculturalisme qui se développe. C'est beaucoup moins le cas, comme beaucoup d'autres pays européens, dès qu'on sort des centres urbains. Et c'est là où l'intégration est difficile, parce qu'on voit que, même sans les réfugiés, les jeunes Allemands, ils poussent vers les grandes capitales, vers les centres urbains. Et du coup, on peut plus facilement, en théorie, intégrer les réfugiés à la campagne. Mais c'est là où l'intégration pose parfois des problèmes. Il y a des petites entreprises qui recrutent des réfugiés, mais les grandes entreprises, les grands, très grands du DAX allemand, l'équivalent du CAC 40, ne recrute que très peu de réfugiés. Et c'est là où je vois une vraie défaillance en Allemagne, c'est-à-dire cet ensemble des entrepreneurs allemands aurait dû s'investir beaucoup plus dans la formation, notamment l'apprentissage de l'allemand des réfugiés qui sont arrivés.
Est-ce qu'on peut dire que la crise migratoire et le phénomène des réfugiés a révélé une nouvelle coupure entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne, Pascal Thibault ?
Elle a révélé ou confirmé une coupure, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne le rapport aux étrangers, la xénophobie, les actes racistes également violents, on constate une coupure entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Si on prend le nombre statistique d'agressions pour 1000 habitants, ça reste plus nombreux dans la partie Est que dans la partie Ouest du pays. Et on voit aussi, si on prend comme baromètre les scores du parti populiste AfD, ces scores sont en moyenne deux fois plus élevés à l'Est qu'à l'Ouest. Et les scores les plus importants que ce parti a réalisés ont été au printemps en Saxe-Anhalt avec environ 24% et dans le Mecklembourg-Poméranie en septembre, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, avec plus de 20% en devançant la CDU, ce qui avait été un mini tremblement de terre. Effectivement, il y a une coupure qui se confirme. Avec un nombre d'immigrés, quel qu'il soit, les réfugiés ou les autres, proportionnellement à la population, très bas, dans les 2% peut-être.
Très faible, évidemment, à l'Est. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'immigration domine le débat politique allemand ?
Ah, tout à fait, oui. Ça fait depuis l'été de l'année dernière qu'on ne parle que de ça. Et j'y vois aussi un problème, parce que je pense que ça dépend aussi de la manière dont on mène le débat, c'est clair, mais je pense que la manière dont on a parlé beaucoup, 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 je ne sais pas comment ça s'est passé en France, ça a aussi, on va dire, fait augmenter les peurs d'un côté, les contestations, enfin tout ça, mais en même temps, il fallait en parler, parce qu'évidemment, c'est un phénomène qu'on n'a pas encore fréquenté avant, donc je ne veux pas dire qu'on en parle trop, c'est juste que en parler chaque jour, chaque jour, chaque jour, ça mène à un discours public qui, évidemment, fait en tant que les gens pensent « Ah, il doit y avoir un problème », parce que si je regarde les journaux et il n'y a que ça, évidemment, il y a un problème. J'aimerais bien que, justement, on parle autant du racisme ou du phénomène de l'extrême droite que des réfugiés, parce que parfois, on a l'impression qu'on parle souvent des problèmes, soi-disant, qu'on a avec les immigrés et pas assez avec le problème du racisme qui submerge en Allemagne.
Est-ce que vous avez voulu dire, par exemple, que autrefois, par exemple, un Turc, les Turcs sont les principaux immigrés historiquement en Allemagne, étaient vus comme des étrangers. Aujourd'hui, ils sont davantage vus comme des musulmans. Qui veut rebondir, Henrik Enerlein?
Non, je crois pas, parce que les Turcs sont là en deuxième, troisième génération, sont très très bien intégrés. Mais il y a un point sur lequel il faut insister. Il n'y a pas de corrélation entre le vote de l'AFD et la présence de réfugiés. Donc il y a aussi la perception d'un problème, beaucoup plus que le problème concret. Donc moi j'interprète ça, je suis économiste, beaucoup plus comme une manière, une soupape par laquelle on fait sortir des peurs, des inquiétudes sur la situation économique. À l'Est par exemple, dans les régions qui ont été nommées, on a l'impression que la politique s'occupe trop des réfugiés ou doit s'occuper des réfugiés alors qu'il y a d'autres problèmes très pressants qui doivent être résolus. Et c'est là où il faut parler de l'Allemagne dans son ensemble et d'une manière beaucoup plus large et non pas se focaliser. Il faut aussi dire que la montée des extrêmes, ce n'est pas un phénomène allemand. L'Allemagne a accueilli 1 million de réfugiés, la France 30 000.
30 000.
Et on a aussi en France une présence de l'extrême droite qu'on connaît très bien. Donc je vois plutôt ça comme un élément déclencheur de quelque chose qui était profondément ancré dans la société, des peurs qu'on voit avec Trump aux États-Unis, qu'on voit avec le Brexit au Royaume-Uni et avec d'autres partis dans d'autres pays. Donc c'est plus un phénomène socio-économique plus large qu'un phénomène de réfugiés isolés.
Alors, Henrik Enerlein, vous avez évoqué un point important. L'Allemagne a accueilli environ 1 million de réfugiés, la France 30 000. Et si l'Allemagne a accueilli un grand nombre de réfugiés, c'est aussi qu'il y a un problème démographique en Allemagne. La population diminue et évidemment, l'intégration peut se faire a priori plus facilement. Il y a plus d'emplois disponibles en Allemagne qu'en France. Henrik Enerlein.
Les réfugiés ne sont pas venus en Allemagne parce que l'Allemagne a un problème démographique. Les réfugiés sont venus en Allemagne parce que l'Allemagne est dans une position économique nettement plus forte que les autres pays. C'est aussi simple que ça. Si l'Allemagne voulait boucher son trou démographique qui va être énorme, l'Allemagne entre 2015 et 2060 va perdre environ 20% de sa force de travail. C'est énorme, c'est un travailleur sur 5. Mais si on avait eu le choix de faire venir des immigrés, bien sûr, on aurait essayé de choisir une immigration beaucoup plus qualifiée. Ces réfugiés-là ne résoudront pas le problème démographique. Non, c'était le choix des réfugiés. Une fois sur le territoire européen, ils sont allés en Allemagne parce que c'est là où ils avaient l'espoir d'avoir le plus facilement du travail.
Sébastien Haas.
Pendant un an, on a eu l'impression que le débat était complètement occupé par la question des réfugiés et de la montée de l'AFD, alors qu'il y aurait un tas de sujets dont on pourrait parler. D'ailleurs, la croissance économique, le marché du travail.
Les difficultés de l'Europe.
Les investissements qu'on fait dans le pays. Mais c'est vrai que ça a été complètement bloqué. Et en effet, cette montée de l'AFD, qui nous préoccupe tous autour de cette table, est un phénomène qui a été déclenché, qui a été un moment déclencheur, je suis parfaitement d'accord, suite à l'arrivée des réfugiés.
Alors, il est vrai, puisque vous évoquez les élections, Sébastien Haas, que la CDU est en grande difficulté, notamment dans le fief d'Angela Merkel, le Mecklembourg-Poméranie-Occidental, où la CDU a connu un recul dramatique, pour le parti en tout cas. L'alternative pour l'Allemagne s'est imposée presque partout, à chaque fois qu'il y a eu des élections régionales. Elle s'est imposée, puisque je crois que le parti est présent dans 9 des 16 parlements régionaux. 10 maintenant, qu'est-ce que ça signifie l'émergence de l'AFD, qui est un parti jeune, qui a quelques années, et qui a d'ailleurs un peu changé. Pascal Thibault.
Il y a à la fois un phénomène durable ou international, c'est ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire que quelque part on a presque, même si c'est regrettable, une normalisation du paysage politique allemand, puisque l'Allemagne faisait un petit peu exception quelque part au niveau européen par rapport à la plupart des pays où il n'y avait, en tout cas au niveau national et durablement, pas de force de la droite extrême ou de l'extrême droite. Mais je pense qu'effectivement, au-delà de la thématique des réfugiés, qui bien sûr est exploitée à longueur de journée par ce parti, il y a aussi d'autres facteurs qui expliquent le développement de l'AFD, qui avait commencé plutôt avant l'arrivée massive des réfugiés.
Mais sur un autre thème, essentiellement, sur un refus de l'euro, sur un refus de l'Europe.
Oui, ils avaient aussi surfé sur, et ils continuent de le faire, sur le rejet de l'islam. Mais je pense qu'il y a aussi un certain nombre de peurs, de réflexes identitaires qu'on retrouve aussi ailleurs en Europe, on les a évoqués, des peurs de subir un déclassement social aussi, ça existe particulièrement dans un certain nombre de membres des classes moyennes. L'AFD dans les dernières élections régionales a été le premier parti pour lequel ont voté les ouvriers par exemple. Il y a aussi tous les débats en Allemagne sur la pauvreté. Certains avaient l'impression qu'il n'y en avait que pour les réfugiés et qu'on oubliait les Allemands en difficulté.
Berlin, nous allons faire une petite pause et rendre l'antenne à Paris afin de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. À tout de suite.
Carrefour de l'Europe sur RFI. Géopolitique, le dé.
Cruzamiento tutta Europa.
Rescrucia Europei.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous sommes à Berlin, où vous pouvez nous écouter en modulation de fréquence sur le 96.7. L'arrivée massive de réfugiés en Allemagne l'an dernier a déstabilisé Angela Merkel, symptôme d'un pays qui s'interroge sur son devenir. Le parti d'extrême droite AfD, Alternative pour l'Allemagne, a réalisé une véritable percée lors des dernières élections régionales. Toutefois, la chancelière allemande reste populaire et pour beaucoup, à un an des élections, elle reste incontournable. Je vous représente les invités qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre. Henrik Elterlein, directeur du bureau de Berlin de l'Institut Jacques Delors et professeur dans ce qui s'appelle, on va appeler un Sciences Po berlinois. Sonia Gheze, porte-parole de Die Linke. Sébastien Haas, directeur de cabinet parlementaire au Bundestag pour la CDU, le parti d'Angela Merkel. Simon Dallemayer, étudiant et puis déjà un peu journaliste sportif. Et puis Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne. Alors, dans la première partie, vous aviez évoqué Henrik Elterlein, la fameuse définition du fameux Wirtschaften das d'Angela Merkel, avec l'idée, est-ce que nous pouvons y arriver ou est-ce que nous devons y arriver? Qu'est-ce que ça veut dire plus profondément sur l'identité aujourd'hui de l'Allemagne? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire?
On n'a pas le choix. 1 million de personnes sont arrivées. On n'a pas la possibilité, s'ils ont le droit d'asile, de les renvoyer chez eux. Donc il faut les intégrer et on veut les intégrer. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais il y a une grande majorité de la population allemande qui partage cet esprit-là de les intégrer. Il faut dire qu'il y a 80% des Allemands qui ne votent pas pour l'AfD. Donc une grande partie qui ne vote pas pour ça. Donc il faut les intégrer, ça veut dire quoi? Si on avait fait 1 million de bébés en 1 an, on aurait créé des écoles, on aurait dit c'est super, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées en Allemagne. Maintenant, investissons. Ce que notre ministre des Finances a fait, au début, il a dit « Ouh, faut garder l'excédent du budget allemand, il ne faut pas trop dépenser d'argent parce que ces personnes-là vont peut-être partir, peut-être on va investir cet argent-là et ça ne servira à rien ». Ce serait une grosse erreur. Et c'est en train de changer. Aujourd'hui, le gouvernement allemand a décidé d'investir en ces personnes-là. Mais il faut faire encore plus d'efforts parce que 1 million de personnes qui sont aujourd'hui beaucoup entre jeunes, qui peuvent apprendre la langue, ne nous donnons pas, comme avec les bébés, 18 ans avant de les intégrer dans le marché du travail, mais 5 ans et on y arrivera.
Alors, est-ce que quand même cet afflux de réfugiés ne pose pas une question un peu existentielle pour l'Allemagne? Qui sommes-nous? Qui voulons-nous être? Et qui pouvons-nous être? Sonia Gheze, j'ai l'impression que ça vous intéresse, cette question.
Non, enfin, oui, ça aussi, mais... Mais ça m'intéresse aussi ce que Henrik vient de dire, c'est cette question de investissement public. Madame Merkel et son ministre des Finances adorent faire des économies. Et notre zéro noir, la Schwarze Null, est un peu connue. Enfin, notre manière d'avoir peur de dépenser de l'argent et de toujours faire des économies, c'était un désastre, on va dire. Comme Henrik a dit, si on avait investi tout de suite, on aurait, à mon avis, pu empêcher justement une grosse vague de frustration qui s'est exprimée aussi dans les phénomènes Pegida, donc des démonstrations de l'extrême droite, des gens xénophobes et tout, parce que les gens avaient l'impression qu'on fait tout pour les réfugiés et pas pour eux. Et si on avait dit, bon, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, et en plus, déjà avant, on n'avait pas assez d'appartements que les gens pouvaient payer, les loyers augmentent, patati patata. Si on avait investi dès le début, je pense que surtout Madame Merkel aurait pu empêcher cette polarisation qu'on voit maintenant au sein de la société civile entre justement une extrême droite qui se manifeste et les autres.
Sébastien Haas, est-ce que ça pose quand même une question sur un changement de l'Allemagne profond, cette arrivée des réfugiés, oui ou non?
Tout d'abord, je vais dire non. L'Allemagne est un pays de 80 millions d'habitants, 1 million de réfugiés, calculez vous-même, ça
représente moins de 1%.
Moins d'1%. Et de toute façon, toutes nos sociétés changent. Nous sommes en évolution permanente. Le monde du travail change. L'Europe change. L'Europe et l'Allemagne ont énormément évolué ces 20, 30, 40 dernières années. Évidemment que nous continuerons dans ce changement. Mais ça, c'est un point crucial. Parce que ce que fait l'AFD et les partis d'extrême, c'est de jouer avec la peur des gens avec ce changement. C'est qu'ils jouent avec la peur. Le discours de l'AFD, c'est un discours de la haine. C'est un discours de la peur. C'est un parti qui tolère dans ses rangs des gens profondément xénophobes, des dirigeants du parti qui suggèrent qu'on pourrait, à la limite, même tirer sur les enfants au bord de nos frontières. C'est pas avec ça que nous allons réaliser les chances que l'arrivée de réfugiés, de nouvelles personnes allemandes peuvent présenter.
RFI à Berlin. 96.7 FM.
Carrefour de l'Europe est à Berlin. Avec la Suède, l'Allemagne est le pays qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés. Il y a de nombreuses explications à cela, mais l'une d'entre elles tient à la personnalité d'Angela Merkel, qui est originaire de l'Allemagne de l'Est. Elle a donc connu la dictature. Elle est aussi la fille d'un pasteur protestant et donc sensible à la compassion. Alors, si autour de cette table, je vous dis, Angela Merkel, quel qualificatif vous vient tout de suite à l'esprit? On va faire un tour de table. Sonia Guise, vous qui êtes de Die Linke, très opposante, très opposée à Angela Merkel. La première, qu'est-ce qui vous vient tout de suite comme qualificatif?
Elle n'a pas de vision. Pour moi, elle est une très bonne administratrice de l'Allemagne, mais elle n'a pas un projet, une vision.
Alors, pour faire un peu drôle, elle est un peu la directrice de cabinet de l'entreprise allemande, c'est ça?
Ouais.
Simon Dallmayr.
Angela Merkel est la politicienne la plus forte du monde en ce moment.
Championne du monde, Angela Merkel. Pascal Thibault-Namo, mais...
Pragmatique et une bonne négociatrice aussi, comme on le voit au niveau international.
Henrik Enerlan.
Pragmatique.
Pragmatique, c'est un mot qui revient.
Très clairement.
Et, comme vous êtes ici le représentant de la CDU, c'est à vous que revient le dernier mot, Sébastien Haas.
Bah, Angela Merkel dirige le pays depuis 11 ans, avec des taux d'approbation qui donneraient beaucoup d'envie aux hommes politiques en France, je pense. Bien sûr, une vision pour le pays. Toutes les crises européennes, monétaires, à laquelle elle nous a fait traverser, c'est une personne qui inspire confiance aux Allemands et qui, en effet, a un style très pragmatique qui est énormément apprécié par les Allemands et les Allemands.
Alors, Angela Merkel a grandi en Allemagne de l'Est, je l'ai dit. Elle est la fille d'un pasteur. Elle a été une très bonne élève. Elle est scientifique. Elle est une physicienne de talent. Elle est épousée en première noce un monsieur qui s'appelle Ulrich Merkel, et en deuxième un monsieur qui s'appelle Joachim Sauer, dont on entend assez rarement parler. Elle est donc divorcée, sans enfant. Rien ne prédisposait Pascal Thibault, Angela Merkel, à se lancer dans la politique.
Oui, effectivement, elle est tout à fait hors norme pour le monde politique allemand, et spécialement, puisqu'elle arrive en politique actuellement avec la réunification après la chute du mur, spécialement pour le monde politique ouest-allemand, et encore a fortiori pour le monde politique de la CDU de l'époque, un monde quand même très masculin, très catholique, plutôt conservateur sur les valeurs de société. Et elle débarque à 35 ans en politique, en sortant de son laboratoire de physicienne, avec un regard pas forcément de naïf, mais en tout cas, elle doit tout apprendre des règles politiques, du fonctionnement de la politique allemande, et a fortiori de ce nouveau parti qu'elle découvre. Et ce qui sans doute laisse des traces encore jusqu'à aujourd'hui, ce qui explique aussi qu'elle a le pragmatisme qu'on a évoqué, explique aussi la facilité qu'elle a eue peut-être par rapport à d'autres à modifier en profondeur aussi le parti sur un certain nombre de positions, notamment sur les sujets de société, et sa capacité à gérer les gens, les équipes aussi, à négocier. Donc un profil effectivement tout à fait atypique, une des rares personnalités issues de l'ex-RDA qui est réussi à durer et à réussir à ce niveau-là.
On a vu dans la crise de l'euro que Angela Merkel, face à des vrai grand problème, essaye toujours de décomposer le problème et de procéder par petites solutions, en fait. Il y en a qui apprécient ça énormément, qui trouvent ça très bien. Il y en a d'autres qui voient justement un manque de vision. Et on a vu ça autour de cette table. Pour l'Allemagne, je crois qu'une personne comme Angela Merkel inspire confiance parce qu'elle...
Elle rassure.
Elle rassure, c'est exactement ça le mot. En fait, au dernier débat télévisé, avant les élections générales en 2013... Elle était face à son opposant, elle a regardé les caméras, elle a dit une phrase qui est assez impressionnante. Elle a dit « Vous me connaissez, Et c'est cette phrase-là qui est restée du débat. Effectivement, la population disait oui, on sait ce qu'elle fait. On sait comment elle résout les problèmes. On ne sait pas si c'est très bien ou très mauvais, mais on suit. Parce que dans une période de crise, on n'a pas besoin de grande vision, on suit. Et là où la phrase « Wir schaffen das », donc nous y arriverons par rapport aux réfugiés, lui a causé quelques problèmes, il ne faut pas non plus exagérer, par rapport à d'autres chefs d'État, son taux de soutien est relativement élevé. Et donc elle a perdu quelques points de pourcentage, parce que pour la première fois, les Allemands avaient l'impression que sa manière de s'attaquer aux problèmes n'était peut-être pas la bonne. Et c'est en train de disparaître un peu. On va voir, on a un an encore avant les élections, si ça va plutôt aller dans le sens d'Angela Merkel, ce que je crois, ou plutôt aller dans le sens de l'opposition, ce qui me surprendrait.
Alors vous avez dit, Henrik Enderlein, elle rassure. Est-ce que ça veut dire que les Allemands sont inquiets quelque part?
Toutes les populations aujourd'hui sont inquiètes. On est toujours en période de crise. En Europe, on a derrière nous une décennie sans croissance. L'Allemagne a plutôt bien tiré son épingle du jeu. Mais l'Allemagne reste un pays en changement structurel très très profond. Donc bien sûr que les Allemands sont inquiets.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Sébastien Haas, pour en revenir un instant à Angela Merkel, elle a fait sa carrière, en tout cas elle a débuté sa carrière dans la foulée d'Helmut Kohl, dont elle a été longtemps la protégée.
Oui, la protégée. Au moment où Helmut Kohl a quitté la chancellerie suite à la défaite électorale de 1998 et que le Parti chrétien-démocrate a entamé une période d'enfer avec des affaires financières qui nous paraissent bien loin aujourd'hui, mais qui avaient énormément secoué le parti.
Elle a repris, c'est-à-dire des scandales sur le financement du parti.
Elle a repris le parti d'abord comme secrétaire générale, puis comme présidente du parti. Elle a ramené le parti au pouvoir en 2005.
Après, c'est même un papier publié dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui en a surpris plus d'un, hein, j'imagine, Pascal Thibault.
Oui, c'était un peu le meurtre du père, quoi, en quelque sorte, puisque cet article paru dans ce journal conservateur, sans que l'entourage d'Angela Merkel soit vraiment au courant, eh bien, c'était un règlement de compte, une coupure, une césure avec l'héritage d'Helmut Kohl, qui, pour l'immense majorité de la base chrétienne-démocrate, restait le père, le commandeur des croyants, en quelque sorte. Et d'un seul coup, Angela Merkel tire un trait sur ce passé, s'impose, et la petite fille, comme Helmut Kohl l'avait baptisée à son arrivée en politique, celle d'Angela Merkel, eh bien, d'un seul coup, elle fait le meurtre du père et elle devient vizir à la place du vizir.
Ce qui caractérise notamment Angela Merkel, c'est sa garde rapprochée. Elle est très féminine. Alors, ce sont des noms qu'on ne connaît pas vraiment en France et dans le reste de l'Europe et dans le reste du monde, mais Beate Baumann et Eva Christiansen sont des personnages importants que l'on ne connaît pas du tout. Moi, j'ai presque découvert leur nom. Garde féminine, très rapprochée. C'est une féministe, Angela Merkel?
Non, c'est une femme, voilà. Mais après, ça s'arrête. Mais bon, ça, c'est la tâche de la chancelière allemande. Oui, si elle était féministe, ça serait bien. Mais je pense que dans le monde de la politique qui est quand même dominée par les hommes, ça sera difficile. Mais
elle est peut-être entourée de ses plus proches collaborateurs sont des femmes, justement parce que le monde politique est un monde d'hommes, spécialement en Allemagne et peut-être spécialement au sein de la CDU.
Son mode de vie, vous venez de le dire, elle est divorcée, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Oui, on peut dire que c'est une femme moderne, mais je veux dire, elle défend pas forcément, enfin, dans sa carrière, je l'ai jamais vue pousser les droits de femmes en particulier, mais je veux dire, vu qu'elle vient de l'Allemagne de l'Est, en Allemagne de l'Est, les droits de femmes étaient plutôt, enfin, ça allait de soi, je veux dire, il y avait beaucoup moins d'inégalités entre hommes et femmes, les femmes travaillaient d'autant que les hommes, enfin, c'était moins vu comme un problème, le féminisme est plutôt, je pense que, enfin, je connais beaucoup de femmes de l'Allemagne de l'Est qui regardent ça un peu avec un sourire, parce que pour eux, c'est pas ça le problème. Et, mais du coup, moi, je trouverais bien si Merkel était féministe, mais si j'avais le choix, je voudrais plutôt qu'elle soit moins néolibérale que féministe. Enfin, ça c'est autre chose. C'est plutôt sa politique sociale et économique qui nous embête.
Alors, elle est évidemment incontestablement affaiblie. Il va y avoir des élections en Allemagne dans un an. Elle reste quand même incontournable, Henrik Enderlein, parce que sa popularité reste grande. Plus de 50% de popularité. Des intentions de vote du parti CDU autour de 30%, un peu plus, un peu moins, c'est pas très important. C'est évidemment, après 12 années de pouvoir, ça reste quand même considérable.
Oui, il y a un affaiblissement relatif de la CDU, de son parti. Mais il faut surtout voir ce qu'il y a en face et ce qu'il y a dans son propre parti. En général, quand il y a un leader qui est affaibli, il y a au moins 10 autres qui sont là avec des couteaux tirés pour prendre la place. Au sein de la CDU, on ne voit pas qui pourrait prendre sa place du jour au lendemain. Il n'y a aucun candidat. Et donc, il n'y a pas non plus de petit neveu qu'elle est en train de construire comme son successeur. Il n'y a pas ça non plus. Donc, il n'y a personne. En face, quand vous regardez l'opposition...
En face, c'est d'ailleurs le SPD, les sociodémocrates.
Le SPD, les sociodémocrates. Ce n'est pas non plus un personnage incontournable qui s'imposerait aujourd'hui. Sigmar Gabriel est un homme avec beaucoup de caractère, mais à qui manque à la fois la base électorale, parce que le SPD aujourd'hui dans les sondages est autour de 20%, mais à qui manque aussi une vraie majorité. Il pourrait peut-être gouverner avec l'extrême gauche et les Verts, mais ce serait un tel changement sociétal en Allemagne que beaucoup d'électeurs vont se poser la question si le pays est prêt pour ça.
Alors Simon Dalmayer, vous êtes le plus jeune ici, la vingtaine d'années. Angela Merkel, elle frise les 70 ans à peu près. En tout cas, dans 4 ans, elle les aura si elle est élue. Elle est quand même une candidate qui peut séduire les jeunes.
Oui, parce que Angela Merkel, elle a été élue quand j'avais 14 ans. Et pour moi, elle était la chancelière pendant presque la moitié de ma vie. Mais je ne vois qu'une seule candidate qui peut être une opposition contre Angela Merkel, parce que dans le parti socialiste, la SPD, je pense qu'il n'y a pas aucune personne qui peut être le candidat. Et je pense que s'il y a une candidate, ce serait Sarah Wagenknecht.
On rentre dans des débats germano-allemands, donc on va pas rentrer dans ces débats. C'est vrai qu'Angela Merkel a souvent été qualifiée de mouti maman. C'est un peu votre seconde maman, finalement, Simon Dalmayer, Angela Merkel.
Wolfgang Schäuble est au le Parlement depuis que j'ai moins de 2 ans. Donc, pendant toute ma vie, il était au Parlement. Je le considère pas comme père. Donc, il y a beaucoup de changements en politique. Il y a des personnes qui marquent des époques. Il y a la génération Mitterrand en France. Il y aura peut-être une génération Merkel. Mais non, le changement en politique, c'est normal. Et je crois que si Merkel aujourd'hui est encore aussi forte, c'est malgré elle, parce qu'il n'y a pas en face quelqu'un qui veut réellement prendre le pouvoir.
Mais il faut dire aussi, mais il faut dire aussi que les Allemands, l'électorat allemand adore la constance, ou pour le dire d'une manière plus nette, aime pas les changements. Enfin, la German Angst, c'est tout à fait un phénomène allemand. Et puis l'histoire de la jeune République fédérale a connu plusieurs chancelières avec des mandats prolongés. Moi, enfin, ce que Simon vient de décrire, moi j'ai eu ça avec Helmut Kohl. J'avais 2 ans quand il est arrivé au pouvoir, et quand j'avais 19 ans, il est parti. Enfin, c'était la même chose. Et pourtant, ça m'aurait jamais donné, enfin, traversé l'esprit de lui donner mon vote juste parce qu'il est là depuis longtemps. Enfin, la constance, c'est pas non plus un signe de qualité. Et je pense que il est vraiment temps pour un changement. Et c'est ça l'affaiblissement de Madame Merkel, c'est que avec son style de politique de on va y arriver, il y a rien, enfin tout va bien, la mouti qui essaye de calmer les choses, ça va plus. Il faut que les choses changent, et il faut encourager les gens à reprendre leurs responsabilités politiques, on va dire. Enfin, c'est ce que Merkel a fait, c'est surtout elle a calmé, elle a un peu anesthésié l'Allemagne. Enfin,
Sébastien Laz.
Je ne sais pas si les Allemands ont peur du changement, mais à vrai dire, moi j'ai peur. Car quand je regarde le bilan économique et la situation d'emploi en Allemagne actuellement... quand Angela Merkel est arrivée au pouvoir, on était à 5 millions de chômeurs. Elle a divisé le chiffre en deux, par deux. Nous avons 700 000 emplois ouverts. Nous sommes en train de lancer pour 270 milliards le plus grand programme d'investissement dans les routes, dans le rail. Nous allons investir 5 millions dans l'infrastructure des écoles. C'est quand même une économie qui ronronne, un marché du travail qui ronronne. Dieu merci que l'alternance dans une république de gauche nous soit épargnée en 2017.
Angela Merkel a déjà connu 3 présidents français. Il n'est pas exclu qu'elle en connaisse un quatrième. C'est vrai, Henrik Hölderlin, qu'elle personnifie l'Europe aujourd'hui, Angela Merkel. Pour le meilleur Et pour le pire, ça a été évidemment la gestion de la crise grecque qui est contestable. Et puis le meilleur, ça a été perçu, en tout cas dans un premier temps, l'accueil des réfugiés.
En Allemagne, la gestion de la crise grecque a été plutôt bien perçue de la part d'Angela Merkel. Mais donc, d'un point de vue européen. Voilà, d'un point de vue européen, c'est différent. Donc il faut adopter la bonne perspective. Je voulais juste rebondir sur un point qui a été dit. Merkel administre ce pays. Et elle a hérité des réformes qui ont été faites avant elle. Donc quand on dit qu'elle est arrivée au pouvoir avec 5 millions de chômeurs, elle a coupé le chiffre en deux, ce n'est pas tout à fait exact. Il ne faut pas non plus surestimer les capacités d'un homme ou d'une femme politique.
Angela Merkel superstar, non quand même.
Non. C'est quelqu'un de très bien, qui a bien géré le pays, qui gère bien les crises, qui administre bien le pays. Mais ce n'est pas quelqu'un qui donne une nouvelle direction au pays. Le courage de Gerhard Schröder de faire ses réformes qui sont très connues, est un courage qu'il faut aujourd'hui souligner. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, contre son propre parti, a dit « l'Allemagne a besoin de ces réformes-là, faisons ces réformes qui ont fait du mal, qui ont fait du bien ». Qui ne sont pas seuls responsables de la réussite allemande aujourd'hui, mais qui en font, qui sont une source de cette réussite-là. Donc, moi, je cherche plutôt quelqu'un qui donne ces impulsions-là à la société allemande, qui a besoin de changement. On le dit pas assez aujourd'hui. On regarde l'Allemagne comme le grand modèle, c'est très bien, l'Allemagne, tout va bien. Non, l'Allemagne a besoin de changement. Nous avons besoin d'un leadership politique qui pousse l'Allemagne vers ces changements-là.
Alors, les Français vont voter dans environ 7 mois, les Allemands dans 1 an. L'Europe est en panne. Angela Merkel et François Hollande sont-ils en mesure d'impulser un nouvel élan à l'Europe qui en a bien besoin, mais qui entre en période électorale, Henrik Knarrlein?
Il y a toujours besoin d'un élan franco-allemand. Et s'il y a quelque chose qui nous manque ces derniers mois, ou ces dernières années, c'est effectivement un bon fonctionnement de ce couple franco-allemand. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que les deux pôles se neutralisent parfaitement sur quasiment toutes les questions. L'Allemagne a besoin de plus de partage de risques en Europe, et la France a peur de plus de partage de souveraineté en Europe. Et donc ces deux pôles-là, ne communique plus.
Ça veut dire que la relation franco-allemande, en France, on a tendance, c'est-à-dire le couple franco-allemand ou le tandem franco-allemand, ce qui se dit pas vraiment ici en Allemagne, c'est une illusion?
Non, c'est devenu un couple beaucoup plus pragmatique. Il y a beaucoup trop de partenaires côté français pour que ce soit un couple usé. François Hollande est là depuis même pas 5 ans, donc non, c'est pas encore usé. C'est juste qu'il manque l'accord sur l'élan à donner au modèle européen. Et ça, c'est peut-être un peu dû aux deux styles de leadership dans les deux pays. Ni François Hollande, ni Angela Merkel ne sont des personnalités qui voient loin pour l'Europe, qui, comme Kohl ou Mitterrand, on peut les aimer ou ne pas aimer, ou comme Giscard, comme Jacques Delors, qui était quelqu'un qui voulait donner une nouvelle direction à ce continent. Et aujourd'hui, on administre. Et ça fait du mal à l'intégration européenne.
Quand on est un jeune Allemand, comment on voit un peu la situation de l'Europe, Simon Dallmayr? On la voit comme une situation un peu en panne, une Europe qui manque d'idées. Comment voyez-vous?
Je pense pas que c'est une Europe sans idées. C'est j'étais à Paris de mai jusqu'au juillet. Et, les Français que j'ai rencontrés là, ils étaient tous très admirables des Allemands et ils ont dit oui, c'est la Deutsche Qualität. Je pense que l'image allemande en France a complètement changé et. Peut-être, on peut dire, oui, il faut plus de rivalité, mais pour moi, comme jeune Allemand, je me sens très bien avec cette amitié franco-allemande.
Et Henrik Knarrlein, il y a des vrais sujets européens, le Brexit, les Français et les Allemands sont sur la même longueur d'onde. Je poserai aussi la question à Sonia Gieser.
Oui, c'est ça. Enfin, à mon avis, les élections en Allemagne et en français, ça parle... Ça va être en même temps des élections sur l'Europe. Enfin, il faut dire, l'Union européenne est dans une crise profonde, une crise systémique, on va dire. Et c'est au gouvernement allemand. Enfin, ce sont les deux pays, la France et l'Allemagne, et leurs futurs gouvernants qui ont la responsabilité de résoudre cette crise. Parce que l'Union européenne, enfin, les jeunes personnes comme Simon ont l'esprit européen. C'est normal pour eux. C'est tout à fait une normalité européenne. Mais en soi, la communauté des États européens est en crise profonde. Ça commence avec l'euro, ça continue avec le Brexit, puis la Grèce, l'euro qui doit être réformé absolument. Enfin, je veux dire, la liste est longue et du coup, le sujet de l'Europe est le sujet le plus important pour le moment.
Il y a plein de sujets sur le tapis, sur la table. Évidemment, le Brexit et puis du côté français, peut-être une différence d'approche entre comment relancer la croissance. Du côté français, on dit qu'il faut desserrer l'austérité. Du côté allemand, on a tendance à dire qu'il faut quand même la maintenir.
Il faut investir en Europe aujourd'hui, ça c'est clair. Du côté allemand, mais aussi depuis le niveau européen dans les pays en crise. Parce qu'il faut à la fois réduire la dette, ce qui est très important, et garder les impulsions pour la croissance dans l'avenir. Et c'est quelque chose qui demande une concertation européenne. Et c'est celle-là qui manque aujourd'hui. Un point pour parler des élections l'année prochaine. Moi, je crains que le sujet européen ne soit évité dans les deux pays. Pourquoi ? Parce que François Hollande ou les socialistes ne veulent pas trop parler de l'intégration européenne parce que le Parti socialiste s'est divisé. On voit la même chose du côté des Républicains en France. Et dans la CDU allemande, ou même aussi dans le SPD, ce n'est pas complètement différent. On a en Bavière la partie de la CDU qui s'appelle CSU, qui veut franchement fermer les frontières, qui veut plus de souveraineté vers la Bavière. Les différences entre l'AFD et quelques parties de la CSU, mais aussi les différences entre le discours de Marine Le Pen et quelques parties de la CSU, il faut le dire haut et fort, ne sont pas toujours perceptibles. Donc il y a là un mouvement qui est eurosceptique. Donc ces grands partis-là savent très bien que l'Europe est un sujet qui va plutôt pousser le vote vers les extrêmes. Donc ce sera un sujet éviter.
Ce que vous craignez, si j'ai bien compris, c'est qu'on parle davantage de sécurité, de terrorisme et de réfugiés et pas suffisamment d'Europe, alors qu'évidemment, les problèmes européens...
Oui, on chante des berceuses sur la bonne croissance allemande, le plein emploi et tout ça. C'est un discours très, très dangereux.
Merci, c'est le mot de la fin. Merci à tous les cinq d'avoir été au Carrefour de l'Europe ici à Berlin. Réalisation Bertrand Eclair. Pour écouter cette émission et tout savoir sur nos invités, RFI.fr ou mieux encore, les applis mobiles et gratuites de RFI dans les deux cas, cliquez sur la rubrique émission. On reste en contact via Facebook et Twitter. Merci à la fidélité des membres et des amis du club RFI Berlin. Daniel Escalou, que vous soyez à Berlin où vous nous écoutez sur le 96.7 en modulation de fréquence ou ailleurs dans le monde. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
Autour de la question.